Mesdames, messieurs, venez le voir. Venez le voir, le grand guérisseur de Galilée. Il redresse les boiteux, il redonne la vue aux aveugles, il délie les langues. Après avoir passé les territoires de Tyr, de Sidon, le voici dans la Décapole. Il est l'unique, celui qui marche sur les eaux. J'ai nommé Jésus, Jésus le Fils de Dieu. Voilà ce qu'aurait pu dire un chauffeur de salle pour introduire Jésus dans les lieux qu'il fréquentait. Tellement l'Évangile nous donne l'impression que Jésus était devenu une bête de foire, une attraction, un magicien guérisseur. Un peu plus haut, le même Évangile de Marc, au chapitre précédent, écrit ceci. Ils sortirent de la barque et aussitôt on reconnut Jésus. Les gens coururent alors de toute la région et se mirent à lui apporter tous leurs malades sur les nattes, là où ils entendaient dire qu'il se trouvait. Partout où Jésus allait, dans les villes, les villages ou les fermes, les gens venaient mettre leurs malades sur les places publiques et ils suppliaient de les laisser toucher au moins le bord de son manteau. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Jésus, phénomène médiatique avant l'heure. Pourtant ici, vous l'avez peut-être entendu à la lecture du texte, il n'est pas question de foi. Il n'est pas question de conversion, mais juste de gestes et de guérison. Vous me direz, c'est déjà pas mal. Et en effet, même si les gens viennent à Jésus uniquement pour être guéris, ils le sont. En tout cas, voilà comment l'évangile de Marc nous présente les gens de la Décapole. Cet évangile nous dit qu'ils sont des païens et qu'ils ne savent pas reconnaître la véritable nature de Jésus et qu'ils ne demandent que des miracles. Ces gens de la Décapole, tellement décriés dans les évangiles, nous ne saurions nous-mêmes les railler, puisque nous fonctionnons tous parfois à leur façon. Cela nous arrive, à nous aussi, d'attendre le miracle, et uniquement le miracle. De le quémander, parfois même en usant du chantage pour de petites choses. Vous connaissez sûrement cette blague de la place du parking. Nous pourrions très facilement le vivre ici à Annecy. Épuisé par une grosse journée, Monsieur X cherche une place de parking pour rejoindre la réunion qui se trouve au temple. Il tourne et tourne encore dans les sens uniques, dans les parkings bondés et ne trouve pas de place. Alors il se met à prier. Seigneur, Seigneur, aide-moi à trouver une place de parking. Quelques secondes plus tard, quelqu'un part devant lui. Il se remet en prière. Ce n'est plus la peine, Seigneur, merci. Venez le voir. Venez le voir, le grand guérisseur de Galilée. Il redresse les boiteux, il vous obtient un travail, il vous ouvre un concours. Il vous garantit une place de stationnement avant chaque rencontre au temple. Voilà ce que nous pourrions déclamer, nous, en nous mettant sur notre parvis pour attirer les foules. Alors, avec de tels agissements, ce n'est pas très étonnant que Jésus soupire dans notre texte. Puis, levant son regard vers le ciel, Jésus soupira. Le soupir de Jésus. Jésus soupire devant l'humanité en souffrance, oui. Mais Jésus soupire peut-être aussi devant l'incrédulité de cette foule qui le pousse à faire des choses qu'il ne souhaite pas vraiment. Comme Jésus soupire aussi devant notre incapacité à comprendre ce qu'il aimerait nous apporter. Jésus soupire et gémit. Il souffre avec nous. Remonter aux racines de ce soupir, c'est trouver le verbe grec « stenanzein », qui peut être traduit aussi par « gémir ». Comme dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, au verset 13, « Nous aussi, qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. » Jésus gémit. Plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer ce gémissement. Il s'agit d'un rite de guérison, comme il s'en pratiquait beaucoup dans ces contrées à l'époque. Et ces rites étaient parfaitement codifiés. Des prières, des touchés, des gestes et des gémissements. Pourquoi pas ? Jésus suit alors un protocole médical. Les gens le lui demandent et il s'exécute. Cette hypothèse aurait le mérite d'expliquer pourquoi ce soupir-gémissement viendrait au milieu du rite de guérison et non pas au début quand on lui amène l'homme. Autre hypothèse, Jésus gémit car il désespère d'avoir encore à demander au Père un nouveau miracle sans contrepartie. Il tente bien de réduire le spectaculaire en s'écartant de la foule pour éviter que la guérison ne devienne un énième spectacle. Et là, cette hypothèse du gémissement de désespoir a le mérite d'expliquer le commandement de garder le silence sur ce qui s'est passé. Car pour Jésus, le plus important, c'est la rencontre de cœur à cœur avec l'homme. Le plus important, c'est le miraculé et non le miracle. Enfin, dernière hypothèse, Jésus gémit car il souffre. Il souffre avec l'homme. Il souffre avec nous. Cela explique ici le Jésus en croix, le crucifié. Et ensuite, avec l'homme guéri, cette hypothèse annonce dans le même texte une autre vie possible dans la résurrection. Soupir thérapeutique, soupir de désespoir, soupir du crucifié, de l'Emmanuel, du Jésus avec nous. Quoi qu'il en soit, le message de libération du Messie ne passe pas parmi les gens de la Décapole. Pourtant, Jésus s'en donne du mal. Il déploie des trésors d'imagination et d'inventivité à travers ses gestes. Des gens, nous dit le texte, on ne sait pas trop qui, lui emmènent cet homme sourd à la parole difficile. Dans nos Bibles, le titre est souvent « La guérison du sourd-muet ». Pourtant, le texte nous dit que cet homme parlait. Difficilement, mais il parlait. Jésus utilise le toucher et même le goût. Le texte devient d'une précision incroyable, avouons-le, pas très agréable pour un dimanche matin. Ni à entendre, ni à imaginer. Des doigts dans les oreilles, des crachats, un toucher de langue. Jésus, ici, personnalise sa rencontre et réussit à entrer en communication avec cet homme qui était enfermé, clos en lui-même. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce texte de l'Évangile annonce que pour chacun de nous, Jésus vient de façon personnelle et unique. Il vient de façon intime pour nous toucher à la manière qui pourra nous relever. Cet aspect corporel ici dans la bonne nouvelle est très important. L'Évangile, c'est la parole vivante, oui. Mais l'Évangile nous prend aussi à bras le corps. Il ne faut pas trop réduire la bonne nouvelle à nos cerveaux. Jésus nous rencontre aussi dans notre humanité charnelle, et en particulier lorsque nous sommes enfermés, liés par nos souffrances. et nous, protestants réformés, devrions être sûrement plus attentifs à cet aspect de l'Évangile. Jésus nous touche aussi dans notre corps tout entier. Et le miracle se produit. Les oreilles s'ouvrent, la langue se délie. C'est la traduction exacte. L'homme est délié, délivré de ses chaînes, de ses maux, M-A-U-X, et il retrouve alors sa parole, ses mots. Jésus accomplit le miracle de retisser la toile de la communication. Quant aux autres, cette foule anonyme, c'est vrai, ils ont eu leur utilité, c'est eux qui ont amené l'homme à Jésus. Mais eux ont manqué la rencontre avec le Christ. À la fin du texte, ils retrouvent un sourd comme ils l'ont amené au début. Le texte nous dit, des gens amènent un sourd et à la fin, un sourd qui entend. Il reste sourd. Cette foule n'a pas bougé. Elle n'a pas entendu que le Christ l'invitait elle aussi à s'ouvrir et à communiquer. Il venait voir celui qui fait bien des choses. Il venait voir celui qui fait entendre les sourds et parler les muets. Ils ont vu. Mais eux n'ont pas avancé. Ephphatha. Ephphatha, dit Jésus en araméen. L'araméen était le dialecte parlé de l'époque. Jésus utilise ce langage du quotidien pour toucher cet homme. Ephphatha, ouvre-toi, dit Jésus. Ouvre-toi quand mes certitudes me lient, m'enchaînent, m'étranglent, me font taire. Ephphatha, Ephphatha, ouvre-toi, dit Jésus, pour faire effondrer les murs de nos limites, nos carcans, nos systèmes bien construits, notre vie bien lisse. Ephphatha, ouvre-toi. Ouvre-toi dans ta tête, dans ton esprit, dans ton âme, mais aussi dans ton corps. Jésus, touche nos oreilles pour que nous puissions accueillir les autres comme ils sont. Jésus, touche notre langue pour que nous soyons prudents, mais en même temps loquaces, source de paix et d'espérance. Levons avec lui les yeux vers le ciel. Ouvrons-nous au tout autre pour vivre en communion chaque jour avec nos frères et nos sœurs. Ephphatha. Amen.